Isabelle Lostalen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine de l'ouvrage Journal de guerre de 1939-1944 de Pierre de Fontaine, directeur de l'Institut français de Barcelone à cette période. Comment est né ce projet ?
Alors, au départ, j'ai donc rédigé une thèse de doctorat sur l'histoire du réseau culturel français en Espagne de 1939 à 1964. Et j'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec la famille des Fontaines. Et la fille aînée de Pierre des Fontaines, Mathilde Gardé, m'a confié le journal intime que son père a tenu de 1928 à 1978. Et donc il m'a semblé que les pages en fait consacrées à la Seconde Guerre mondiale, donc de 39 à 44, méritaient d'être connues. Enfin, il fallait que cette partie du journal soit publiée parce que je trouvais qu'elle apportait quand même des données, un éclairage nouveau sur ce qu'avait été l'Institut français pendant cette période.
Et dans l'avant-propos, vous expliquez avoir sélectionné des passages à retranscrire. Donc, par exemple, vous dites qu'il y a peu de pages entre septembre 1939 et octobre 1942. Pourquoi un tel choix ?
Très simplement, c'est qu'au départ, moi, je pensais ne présenter le journal que depuis novembre 1942 jusqu'à la libération, l'automne, on va dire, 44, pour faire un cycle, aller jusqu'à la rentrée des classes. Et puis, c'est l'éditeur qui m'a demandé de remonter en 39. Donc, pour des questions, on va dire, éditoriales de longueur de l'ouvrage, il m'a été demandé de ne consigner que les événements qui avaient attrait aux événements historiques, politiques de 39 à 42. Voilà, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est ajouté à mon projet initial, qui, moi, était de commencer plutôt en 42, de faire de 42 à 44.
Pourquoi vous vouliez commencer en 42 précisément ?
Donc, en novembre 42, a lieu le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, et qui marque un véritable tournant dans la guerre, parce que les Français, Desfontaines fait partie de ceux-là, espèrent que le maréchal Pétain va rejoindre ce gouvernement qui se forme à Alger sous l'égide des Alliés. Or, il n'en est rien, Pétain reste à Vichy. Et donc là, Desfontaines commence à douter de la volonté de Pétain de lutter contre les Allemands et de reprendre les combats. Donc il y a une prise de conscience et le réseau culturel français commence à envisager de rallier le gouvernement d'Alger et de rompre avec Vichy, ce qu'il fera quelques mois plus tard. Donc ça marque véritablement un tournant dans la guerre, et c'est là que commence la dissidence, on va dire, du réseau culturel français en Espagne à l'égard du régime de Vichy.
Et Pierre de Fontaine donc arrive à la tête de l'Institut en 1939 afin de, je cite, remettre en marche. Quel était l'enjeu pour lui de continuer à faire vivre l'Institut durant la guerre ?
En 1939, il faut effectivement réouvrir l'Institut français de Barcelone qui a tant bien que mal fonctionné pendant la guerre civile. Donc le gouvernement a changé en Espagne, c'est un nouveau gouvernement franquiste qui s'installe. Donc pour les Français, ça signifie d'autres règles du jeu. Il faut évidemment, par exemple, soumettre toutes les conférences, toutes les activités de l'Institut aux autorités franquistes pour qu'elles donnent leur accord. Eh bien, c'était aussi pour la France un moment où le gouvernement se rend compte que les Français ne sont plus les seuls sur la place du rayonnement culturel. Les Allemands commencent aussi à développer des instituts, les Italiens, les Anglais dans une certaine mesure, et qu'il faut que la France aussi occupe sa place à Barcelone. On sent déjà qu'il y a une concurrence des autres nations sur le plan culturel, et que la France doit réaffirmer un peu sa place. Donc voilà, c'est essayer de maintenir les couleurs de la culture française en Espagne.
Et donc tout au long de ce journal, on suit les événements de l'Institut français, on suit également la vie de Pierre de Fontaine, on voit aussi l'évolution de la guerre. Vous, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans l'histoire de Pierre de Fontaine ?
C'est de voir un homme qui croit fermement un idéal. Il a l'impression que le maréchal va sauver la France, qu'il va remettre la tradition catholique, parce qu'il est croyant, il est catholique, et que le maréchal, bien sûr, sauvera l'honneur de la France. Et puis il va de déception en déception, et à un moment donné, il doit rompre avec ce régime. Et donc il écrit notamment une lettre très, très déchirante où il explique pourquoi est-ce qu'il rompt avec ce régime dans lequel il a cru. Il faut bien se rappeler que Pierre Desfontaines est un homme de la génération de la guerre de 14, et qu'il a perdu son père à la guerre de 14, il a perdu son propre frère. Donc le maréchal Pétain était en fait un compagnon d'armes de son père. Hein. Donc il ne pouvait pas envisager qu'il y ait, que le maréchal ne reprenne pas la lutte contre l'envahisseur allemand. Donc il y a ce moment difficile dans sa vie. Et puis ensuite, il y a, parce que c'est quand même quelqu'un qui a aussi une grande humanité, hein, qui s'est occupé de tous les réfugiés, des réfugiés qu'il a croisés, qui fuyaient justement la France occupée, qui s'est mis en quatre hein, pour essayer de les acheminer jusqu'en Afrique du Nord, les faire sortir de prison, etc. Voilà, quelqu'un qui s'intéresse véritablement à l'homme, qui choisit une voie au début, qu'il se trouve qu'il se trompe, mais qui est quand même capable d'emprunter une autre voie et donc de voir cet homme reconnaître un peu qu'il s'est trompé. C'est un passage qui m'a touchée, par exemple, hein, au moment de sa rupture, où il prend la décision de rompre, mais effectivement, il doit renoncer à un idéal qu'il avait cru, auquel il avait cru.
Et dernière question, avec votre regard et votre recul d'historienne, quelle est votre vision aujourd'hui de l'Institut français de Barcelone en 2015 ?
Par rapport à l'époque, donc... De Desfontaines. Donc l'époque évidemment est complètement différente. L'Institut français à l'époque de Desfontaines, c'était un endroit où on trouvait des livres, où on pouvait se réunir de façon plus libre qu'à l'extérieur. C'est ce que racontent les artistes qui se réunissaient dans le Cercle Mayol notamment, qui racontent que le fait de pouvoir faire des expositions, de pouvoir bavarder dans l'Institut français, ça leur donnait une sensation de liberté. Ça les aidait peut-être dans leur créativité. Ils se sentaient pas tout à fait en France, mais plus tout à fait en Espagne. L'Institut français a distribué des bourses aussi pour des artistes, des intellectuels, pour qu'ils puissent faire leurs études en France. Aujourd'hui, l'Institut français, je vois qu'il est très vivant. Il y a une programmation très, très, très riche. Donc j'imagine que c'est évidemment un lien entre la Catalogne et la France. Je trouve que c'est un endroit très, très vivant et j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à l'Institut français.
Merci beaucoup Isabelle Lostel.
Et merci à vous et merci pour votre intérêt pour mon livre.